Chapitre 252. Le fils de Biscara. Les Bretons de Lille étaient tout fiers de cette victoire. Aramis ne les encouragea pas. « Ce qui arrivera, dit-il à Porthos quand tout le monde fut rentré, c'est que la colère du roi s'éveillera avec le récit de la résistance et que ces braves gens seront décimés ou brûlés quand Lille sera prise, ce qui ne peut manquer d'advenir. »
« Il en résulte, dit Porthos, que nous n'avons rien fait d'utile. »«
Pour le moment, si fait, répliqua l'évêque, car nous avons un prisonnier duquel nous saurons ce que nos ennemis préparent. »«
Oui, interrogeons ce prisonnier, dit Porthos, et le moyen de le faire parler est simple. Nous allons souper, nous l'inviterons. En buvant, il parlera. »
Ce qui fut fait. L'officier, un peu inquiet d'abord, se rassura en voyant les gens auxquels il avait affaire. Il donna, n'ayant pas peur de se compromettre, tous les détails imaginables sur la démission et le départ de D'Artagnan. Il expliqua comment, après ce départ, le nouveau chef de l'expédition avait ordonné une surprise sur Belle-Île. Là s'arrêtèrent ses explications. Aramis et Porthos échangèrent un coup d'œil qui témoignait de leur désespoir. Plus de fonds à faire sur cette brave imagination de D'Artagnan, plus de ressources par conséquent en cas de défaite. Aramis, continuant son interrogatoire, demanda aux prisonniers ce que les royaux comptaient faire des chefs de Belle-Île. « Ordre, répliqua celui-ci, de tuer pendant le combat et de pendre après. » Aramis et Porthos se regardèrent encore. Le rouge monta au visage de tous deux.
« Je suis bien léger pour la potence, répondit Aramis. Les gens comme moi ne se pendent pas. »
« Et moi, je suis bien lourd, dit Porthos. Les gens comme moi cassent la corde. »
« Je suis sûr, fit galamment le prisonnier, que nous vous eussions procuré la faveur d'une mort à votre choix. »
« Mille remerciements, dit sérieusement Aramis. »
Porthos s'inclina.
« Encore ce coup de vin à votre santé ? Fit-il en buvant lui-même.
De propos en propos, le souper se prolongea. L'officier, qui était un spirituel gentilhomme, se laissa doucement aller au charme de l'esprit d'Aramis et de la cordiale bonhomie de Porthos.
« Pardonnez-moi, dit-il, si je vous adresse une question, mais des gens qui en sont à leur sixième bouteille ont bien le droit de s'oublier un peu. »«
Adressez, dit Porthos, adressez. »
« Parlez, dit Aramis.
N'étiez-vous pas, messieurs, vous deux, dans les mousquetaires du feu roi ?»«
Oui, monsieur, et des meilleurs, s'il vous plaît, répliqua Porthos.
« C'est vrai, je dirais même les meilleurs de tous les soldats, messieurs, si je ne craignais d'offenser la mémoire de mon père. »«
De votre père ? » s'écria Aramis.
« Savez-vous comment je me nomme ?»
« Ma foi, non, monsieur, mais vous me le direz, et... »«
Je m'appelle Georges de Biscara. »
« Oh !» s'écria Porthos à son tour.
« Biscara, vous rappelez-vous ce nom, Aramis ?»«
Biscara ?» rêva l'évêque. « Il me semble... »«
Cherchez bien, monsieur, dit l'officier. »
« Pardieu, ce ne sera pas bien long, dit Porthos. Biscara, dit cardinal... » Un des quatre qui vinrent nous interrompre le jour où nous entrâmes dans l'amitié de D'Artagnan, l'épée à la main.
Précisément, messieurs.
Le seul, dit Aramis vivement, que nous ne blessâmes pas.
Une rude lame, par conséquent, fit le prisonnier.
C'est vrai, oh, bien vrai, dirent les deux amis ensemble. Ma foi, monsieur de Biscara, enchanté de faire la connaissance de nos six braves hommes. Biscara serra les deux mains que lui tendaient les deux anciens mousquetaires. Aramis regarda Porthos comme pour lui dire « Voilà un homme qui nous aidera. » Et sur le champ, « Avouez, dit-il, monsieur, qu'il fait bon d'avoir été honnête homme. »
« Mon père me l'a toujours dit, monsieur. »
« Avouez, de plus, que c'est une triste circonstance que celle où vous vous trouvez de rencontrer des gens destinés à être arquebusés ou pendus, et de s'apercevoir que ces gens-là sont d'anciennes connaissances,
de vieilles connaissances héréditaires.
« Oh, vous n'êtes pas réservés à ce sort affreux, messieurs et amis, » dit vivement le jeune homme.
« Bah, vous l'avez dit ?»«
Je l'ai dit tout à l'heure quand je ne vous connaissais pas. Mais maintenant que je vous connais, je dis, vous éviterez ce destin funeste si vous le voulez. »
« Comment, si nous le voulons ? » s'écria Aramis, dont les yeux brillèrent d'intelligence en regardant alternativement son prisonnier et Porthos.
« Pourvu, continua Porthos en regardant à son tour, avec une noble intrépidité, M. de Biscarat et l'évêque, pourvu qu'on ne nous demande pas de l'acheter.
« On ne vous demandera rien du tout, messieurs, reprit le gentilhomme de l'armée royale. Que voulez-vous qu'on vous demande ? Si l'on vous trouve, on vous tue, c'est chose arrêtée. Tâchez donc, messieurs, qu'on ne vous trouve pas. »
« Je ne crois pas me tromper, dit Porthos avec dignité, mais il me semble bien que, pour nous trouver, il faut qu'on vienne nous quérir ici. »
« En cela, vous avez parfaitement raison, mon digne ami, reprit Aramis en interrogeant toujours du regard la physionomie de Biscarat, silencieuse et contrainte.
« Vous voulez, monsieur de Biscarat, nous dire quelque chose, nous faire quelque ouverture, et vous n'osez pas. N'est-il pas vrai ?»«
Ah, messieurs et amis, c'est qu'en parlant, je trahis la consigne. Mais tenez, j'entends une voix qui dégage la mienne en la dominant. »«
Le canon, » fit Porthos.
« Le canon et la mousqueterie, » s'écria l'évêque.
On entendait gronder au loin, dans les roches, ces bruits sinistres d'un combat qui ne dura point.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda Porthos.
« Eh, pardieu ! » s'écria Aramis, « c'est ce dont je me doutais.
Quoi donc ?
L'attaque faite par vous n'était qu'une feinte, n'est-il pas vrai, monsieur ? Et pendant que vos compagnies se laissaient repousser, vous aviez la certitude d'opérer un débarquement de l'autre côté de l'île.
« Oh, plusieurs, monsieur !»
« Nous sommes perdus, alors, » dit paisiblement l'évêque de Vannes.
« Perdus, cela est possible, » répondit le seigneur de Pierrefonds, « mais nous ne sommes pas pris ni pendus. »
Et, en disant ces mots, il se leva de la table, s'approcha du mur et en détacha froidement son épée et ses pistolets, qu'il visita avec ce soin du vieux soldat qui s'apprête à combattre et qui sent que sa vie repose en grande partie sur l'excellence et la bonne tenue de ses armes.
Au bruit du canon, à la nouvelle de la surprise qui pouvait livrer l'île aux troupes royales, la foule éperdue se précipita dans le fort. Elle venait demander assistance et conseil à ses chefs. Aramis, pâle et vaincu, se montra entre deux flambeaux à la fenêtre qui donnait sur la grande cour, pleine de soldats qui attendaient des ordres, et d'habitants éperdus qui imploraient secours.
« Mes amis, » dit D'Herblay d'une voix grave et sonore, « Monsieur Fouquet, votre protecteur, votre ami, votre père, a été arrêté par ordre du roi et jeté à la Bastille. »
Un long cri de fureur et de menace monta jusqu'à la fenêtre où se tenait l'évêque et l'enveloppa d'un fluide vibrant.
« Vengeons, monsieur Fouquet !» crièrent les plus exaltés. « À mort, les royaux !»«
Non, mes amis, » répliqua solennellement Aramis, « non, mes amis, pas de résistance. Le roi est maître dans son royaume. Le roi est le mandataire de Dieu. Le roi et Dieu ont frappé M. Fouquet. Humiliez-vous devant la main de Dieu. Aimez Dieu et le roi qui ont frappé M. Fouquet. Mais ne vengez pas votre seigneur, ne cherchez pas à le venger. » Vous vous sacrifieriez en vain, vous, vos femmes et vos enfants, vos biens et votre liberté. Bas les armes, mes amis, bas les armes, puisque le roi vous le commande, et retirez-vous paisiblement dans vos demeures. C'est moi qui vous le demande, c'est moi qui vous en prie, c'est moi qui, au besoin, vous le commande au nom de M. Fouquet. »
La foule, amassée sous la fenêtre, fit entendre un long frémissement de colère et d'effroi.
« Les soldats de Louis XIV sont entrés dans l'île, » continua Aramis. « Désormais, ce ne serait plus entre eux et vous un combat, ce serait un massacre. Allez, allez et oubliez. Cette fois, je vous le commande au nom du Seigneur. »
Les mutins se retirèrent lentement, soumis et muets.
« Ah ça ! Mais que venez-vous donc de dire là, mon ami ?» dit Porthos.
« Monsieur, dit Biscara à l'évêque, vous sauvez tous ces habitants, mais vous ne sauvez ni votre ami ni vous. »
Monsieur de Biscara dit avec un accent singulier de noblesse et de courtoisie l'évêque de Vannes, « Monsieur de Biscara, soyez assez bon pour reprendre votre liberté. »
« Je le veux bien, monsieur, mais... »
« Mais cela nous rendra service, car, en annonçant au lieutenant du roi la soumission des insulaires, vous obtiendrez peut-être quelques grâces pour nous, en l'instruisant de la manière dont cette soumission s'est opérée.
« Grâce ? » répliqua Porthos avec des yeux flamboyants. « Grâce ? Qu'est-ce que ce mot-là »
Aramis toucha rudement le coude de son ami, comme il faisait au beau jour de leur jeunesse, alors qu'il voulait avertir Porthos qu'il avait fait ou qu'il allait faire quelques bévues. Porthos comprit et se tut soudain.
« J'irai, messieurs, répondit Biscara, un peu surpris aussi de ce mot de grâce prononcé par le fier mousquetaire, dont, quelques instants auparavant, il racontait et vantait avec tant d'enthousiasme les exploits héroïques.
« Allez donc, monsieur de Biscara, dit Aramis en le saluant, et, en partant, recevez l'expression de toute notre reconnaissance.
Mais vous, messieurs, vous que je m'honore d'appeler mes amis, puisque vous avez bien voulu recevoir ce titre, que devenez-vous pendant ce temps ? Reprit l'officier tout ému, en prenant congé des deux anciens adversaires de son père.
Nous, nous attendons ici.
Mais, mon Dieu, l'ordre est formel.
Je suis évêque de Vannes, monsieur de Biscara. Et l'on ne passe pas plus par les armes n'évêque que l'on ne pend un gentilhomme.
Ah oui, monsieur, oui, monseigneur, reprit Biscara. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a encore pour vous cette chance. Donc je pars, je me rends auprès du commandant de l'expédition, du lieutenant du roi. Adieu donc, messieurs, ou plutôt au revoir.
En effet, le digne officier, sautant sur un cheval que lui fit donner Aramis, courut dans la direction des coups de feu qu'on avait entendus et qui, en amenant la foule dans le fort, avait interrompu la conversation des deux amis avec leurs prisonniers. Aramis le regarda partir et demeura seul avec Porthos.
« Eh bien, comprenez-vous » dit-il.
« Ma foi, non. »«
Est-ce que Biscara ne vous gênait pas ici ?»«
Non, c'est un brave garçon. » »«
Oui ?» Mais la grotte de Locmaria, est-il nécessaire que tout le monde la connaisse ?
Ah, c'est vrai, je comprends. Nous nous sauvons par le souterrain.
S'il vous plaît, répliqua joyeusement Aramis.
En route, ami Porthos, notre bateau nous attend et le roi ne nous tient pas encore.